Bienvenue pour le module 26. Nous parlerons encore du travail dans cette deuxième partie. Dans 1 Pierre 2, verset 18, il est écrit « Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. » Ce n'est pas évident, ce verset. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité de l'employé. Dans la première partie, nous avons parlé de la responsabilité de l'employeur, mais l'employé a aussi des responsabilités. Voici 6 qualités d'un employé qui respecte Dieu. Point 1, l'honnêteté absolue. L'honnêteté absolue. Ça va très loin, nous en parlerons encore un peu plus loin. Point 2, la fidélité. Fidélité aujourd'hui souvent méprisée. Point 3, la prière. Point 4, honorer son employeur, comme nous avons entendu dans le verset que j'ai cité. Point 5, honorer ses collègues de travail. Point 6, parler clairement de sa foi, afficher sa foi, ce qui n'est pas toujours évident. Autre aspect du travail, la retraite. Ouh, ça c'est un mot qui peut susciter des discussions, la retraite. Est-ce que c'est la retraite à 62 ou à 65 ou à 67 ans comme maintenant nos amis allemands? Mais vous savez, la Bible ne parle à nulle part de la retraite. Alors, ça veut dire qu'on n'aura jamais de retraite? Si, sous certaines conditions, je dirais, ça veut dire on se retire de l'activité professionnelle à un moment donné, mais après, on a peut-être envie et aussi les expériences pour donner plus loin de ce que la vie nous a enseigné. Et c'est là que nous devrions mettre nos expériences à disposition de la jeune génération, de nos enfants et de nos petits-enfants. Vous savez, l'homme est vraiment heureux quand il a quelque chose à faire qui correspond à ses capacités et qu'il ne se sent pas inutile. Ensuite, il y a l'ambition. Donc l'ambition, elle n'est pas interdite bibliquement parlant, mais c'est l'ambition qui ne doit pas être égoïste et concentrée sur nous-mêmes. L'appel. Chacun de nous a reçu un appel. Je vous ai parlé déjà dans d'autres parties de cet enseignement. L'appel que nous avons, ça, il vient de Dieu. Donc nous sommes appelés à entrer dans l'appel que Dieu a pour nous, et quand nous sommes dans notre appel, nous sommes vraiment heureux, parce que c'est là que nous pouvons donner notre meilleur, et c'est là que nous avons reçu les talents pour donner plus loin. Ensuite, la Bible nous parle aussi des partenariats. Moi, je vous cite un verset qui est écrit dans 2 Corinthiens 6, les versets 14 à 17. Il est écrit: ne formez pas un attelage avec des incroyants, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? C'est assez fort. Et ça va jusqu'où? Est-ce qu'on peut pas travailler avec un non-chrétien en tant que chrétien? Ou est-ce qu'on peut pas être chez un employeur qui n'est pas chrétien? Non, ce n'est pas ça. C'est même bien si vous travaillez chez un employeur qui n'est pas encore dans la foi, parce que vous pouvez être chez lui le sel et la lumière. Ou si vous êtes vous-même un patron dans la foi, puis vous avez des employés qui ne sont pas encore dans la foi, vous avez l'occasion unique de leur témoigner de ce grand Dieu que nous avons. Mais ici, on parle du partenariat, d'une alliance. Ça veut dire de se mettre ensemble pour, par exemple, créer une entreprise. Donc, un homme qui, ou une femme qui veut monter une affaire et puis qui se met avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui n'est pas intéressé à Jésus. Il y aura des problèmes. Au plus tard, quand il y aura la discussion, est-ce que nous voulons vraiment entrer dans une bénédiction massive en payant même la dîme de notre entreprise. Et ça va aussi plus loin dans le domaine privé, ça veut dire quand vous êtes une femme ou un homme dans la foi et vous souhaitez vous marier et que votre partenaire ne veut rien savoir de Jésus, je peux vous garantir l'ambiance, et c'est une mauvaise ambiance, elle sera dans la plupart des cas malheureusement garantie. Donc attention à ce point. Ensuite, nous avons la remise à plus tard. La remise à plus tard est quelque chose de très très dangereuse. Donc on pense que je le fais demain parce que c'est une décision désagréable et puis on reporte et ça c'est vraiment pas la bonne solution. Le contraire, on appelle ça aussi la temporisation. Le contraire de la temporisation, c'est la promptitude. Donc ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne le reportez pas à demain. Sauf si c'est des décisions qui nécessitent prière et où vous devez vraiment recevoir une indication venant du Saint-Esprit. Là, il n'y a pas urgence dans ce cas. Mais ce qu'on peut faire, on doit le faire et faites-le aujourd'hui. Voilà, maintenant, quelques suggestions pratiques pour vous aider à surmonter l'habitude de remettre les choses à plus tard. Point 1. Faites la liste des tâches à accomplir chaque jour. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, établissez des priorités dans la prière. Il y a des priorités, il n'y a pas tout qui doit être décidé aujourd'hui, mais il y a des choses que vous pouvez, que vous devez même décider aujourd'hui, et puis donc afficher cela sur un papier. Ensuite, terminez la première tâche de la liste avant de commencer la seconde. Ça, c'est le point numéro 3. Ça veut dire, souvent, cette première tâche est la plus difficile à faire et celle que vous craignez le plus. Et c'est là que vous devez mettre le paquet. Vous dites, maintenant, je m'y attache à ça et je veux le liquider parce que vous trouverez aussi ensuite la paix. Le point 4, demandez au Seigneur de vous donner le courage, vous rappelant cette parole qui figure dans Philippiens 4. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc tout est possible à celui qui croit en Dieu et qui reçoit par Dieu la force. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques sujets à travailler. La première question est celle-là. Est-ce que je peux affirmer être une personne absolument honnête et fidèle dans mon travail et envers mon employeur? Sinon, que vais-je faire pour changer la situation? Le point 2 ou question numéro 2, est-ce que je prie pour mon travail, pour mon employeur, pour mes clients? Aussi, par exemple, quand vous travaillez pour un patron qui, à votre avis, n'est pas très agréable, vous savez, ça ne sert à rien de mener le combat contre la chair et le sang. À ce moment-là, je vous recommande, priez pour lui, bénissez-le, et vous verrez que vous n'avez pas besoin de mener le combat contre la chair et le sang, mais vous pouvez dans la prière obtenir beaucoup plus, et tout d'un coup, la situation va changer. Et à ce sujet, encore une petite idée qui me vient à l'instant, c'est quand on est humilié, et il y a deux possibilités, soit on commence à se défendre, ou on se laisse faire en bénissant l'autre. Et qu'est-ce que dit la parole? Celui qui est humilié, qui se laisse humilier, c'est l'Éternel qui l'élèvera. Troisième question, est-ce que j'honore mon employeur en sachant que Dieu me récompensera? Est-ce que j'honore mes collègues de travail, même ceux qui sont peut-être un peu désagréables? Est-ce que je prie pour eux et pour leur famille? Vous voyez, tout un programme dans ce domaine du travail, et nous sommes tous concernés par le travail, soit en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Et donc, je vous invite à vraiment avancer, grandir dans ce domaine afin de devenir un instrument de bénédiction entre les mains de l'Éternel. Je me réjouis de vous rencontrer la prochaine fois pour un témoignage de mon ami Alain Audercet, dessinateur de BD chrétienne. Et d'ici là, je vous dis, soyez bénis, à bientôt.